Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur ces récents développements relatifs à la Syrie. Ces derniers temps, si vous avez suivi l'actualité, vous vous en êtes rendu compte, les Américains ont, au contraire de ce qu'ils disent, de ce qu'ils prétendent, ont renforcé même leur présence militaire en territoire syrien, qui est fortement contesté par le pouvoir de Damas. C'est les Américains qui ont renforcé surtout en fait leur présence militaire dans cette base illégale d'Al-Tanf et également dans la province de Asaki. Il y a eu également ces affrontements entre l'armée syrienne et les FDS, les forces démocratiques syriennes, qui sont en fait une formation composée des Kurdes et des Arabes, soutenus par les Américains et les Occidentaux. Ajoutez à tout cela cette information donnée il y a quelques jours par le ministère syrien de la Défense, comme quoi 200 terroristes ont été tués dans des bombardements russes. Ces terroristes avaient été tués en fait de tout près de cette base illégale américaine d'Al-Tanf. Et selon en fait des informations, ces terroristes auraient intensifié ces derniers temps de leurs attaques contre les militaires russes, si vous voulez, présents en territoire syrien. Comme vous le savez très bien, la Syrie a été toujours un sujet de désaccord entre les États-Unis et la Russie, mais maintenant les relations entre la Russie et les États-Unis se sont dégradées, se trouvent dans un état, si vous voulez, de dégradation. Est-ce que la Syrie va dégrader davantage ces relations déjà tendues entre Washington et Moscou? On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Rabat un analyste politique et spécialiste des questions internationales, Mikhail Egorov. Monsieur Egorov, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci pour m'avoir invité.
Et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Paris une analyste franco-syrienne spécialiste des questions internationales, Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de l'invitation. Merci à toutes les. Bonjour aussi à toute l'équipe de Presse TV et à tous les auditeurs.
Madame Midani, je viens de lancer le sujet, ces derniers développements qui sont produits en fait ces derniers temps en Syrie. Jusqu'à présent, c'est vrai, cette présence militaire américaine en territoire syrien a été contestée tant par le gouvernement de Damas que par en fait la Russie. Mais ces derniers temps, on a l'impression que la tension s'est intensifiée entre la Russie et les États-Unis, même en territoire syrien, Madame Midani, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Et en fait, ceci est dû à l'attitude des Américains qui, depuis un certain temps, continuent à faire venir des équipements, des renforts. Tous les jours, il y a des colonnes entières de blindés, de chars qui arrivent en fait par les frontières, par un passage entre la Syrie et l'Irak, qui est complètement illégal aussi, et tous ces renforts vont à la base Al-Shadadi, illégale, qui est dans le nord-est de la Syrie, qui est la base américaine. Hein. Donc, d'un autre côté aussi, ils continuent à renforcer les équipements aussi et la logistique pour leurs sbires, leurs agents de Qassad, FDS, comme vous l'avez dit, qui continuent leurs attaques contre la population syrienne et contre aussi les Russes dans la région. Un troisième point aussi, c'est la Turquie et aussi les Américains continuent donc à voler aussi le pétrole syrien et le gaz dans le nord-est de la Syrie, donc dans cette région Al-Jazira, de Hasakeh, de Qamishli et rachats, etc., ils continuent à piller le pétrole. Et donc, tous les jours aussi, il y a des colonnes entières de citernes qui partent complètement pleines. Mais ils continuent aussi à piller le grain, les céréales, celles qui ont réussi, qui ont échappé aux incendies au moment de la moisson, parce que les Américains et Fossad se sont employés au moment de la moisson brûler toutes les récoltes syriennes de céréales, de coton, etc. Et là, donc, ce qui a pu échapper et ce qui a pu être sauvé, et bien là, ils sont en train de le piller et puis toujours le faire sortir par colonne entière de camions complètement pleins, donc de blé, d'orge et toutes les céréales syriennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette région de Al Jazeera, c'est le panier alimentaire de la Syrie, ajouté à la région ouest où se trouve vraiment le verger syrien, je dirais, tous les arbres fruitiers, les oliviers, etc. Et là aussi, ça a été l'objet de grands incendies créés par les terroristes, par les Américains, les terroristes qui dépendent de la Turquie aussi, qui sont soutenus par la Turquie. Donc, on voit bien que l'objectif, c'est affamer le peuple syrien pour le mettre à genoux. Un autre point que je voudrais ajouter, c'est que la base russe, en fait, aussi, qui existe en Syrie, mais qui existe en toute légalité, puisque c'est l'État syrien qui a demandé aux Russes d'être là et puis de participer, d'aider donc dans la lutte contre le terrorisme qui est dépêché par 100 pays différents, en fait, dont bien sûr les principaux, c'est l'Alliance Atlantique et sous la direction des États-Unis avec Israël aussi. Donc là aussi, la base russe et les soldats russes ont systématiquement été attaqués aussi bien Qassad que par les terroristes dirigés par la Turquie que par les agents des Américains. Un dernier point que je voudrais ajouter aussi, c'est que l'idée est partie, mais elle reviendra. Le dernier point, c'est que aussi il y a cette volonté. Je voulais ajouter quand même le bombardement américano-syrien aussitôt que Biden a pris le pouvoir, américano-israélien, pardon, aussitôt que Biden a pris le pouvoir, la zone de Hasakeh, le passage Al-Qa'im, Boukamal Al-Qa'im entre l'Irak et la Syrie a été bombardé aussi, il y a eu des victimes. Et ajouté au fait que les États-Unis ont bien réactivé tous les terroristes et ils les aident. Il y a aussi bien Daesh que Qassad dans cette région est de la Syrie.
Merci. Madame Midani, permettez-moi d'avoir l'avis de M. Egorov sur en fait ce dernier point que vous avez évoqué tout à l'heure. Monsieur Egorov, les États-Unis ont-ils réactivé, comme l'a dit Madame Midani, tous les terroristes, si vous voulez, en territoire syrien, que ce soit en fait le groupe terroriste Daesh et autres, cette fois-ci avec pour l'objectif, un double objectif, viser le gouvernement de Damas, viser également cet allié important du gouvernement de Damas, c'est-à-dire la Russie.
Oui, tout à fait. Je pense que tout ce qui a été dit par Mme Midani est très juste. D'ailleurs, je la salue, je profite pour la saluer. Absolument, parce que, d'ailleurs, j'avais fait un article sur cette question il y a de cela quelques mois, justement en ce qui concerne la base, ne serait-ce que d'Altaf. Non seulement c'est une base complètement illégale, parce que c'est une base d'agression, c'est une base d'occupation, appelons les choses par leur nom, sachant que les Américains n'ont ni l'invitation des autorités syriennes, ni un mandat onusien pour être présents sur place, ainsi que leurs supplétifs d'autres pays occidentaux, n'est-ce pas? Mais plus que cela, les Américains continuent à justifier leur présence en Syrie par la nécessité de lutter contre Daesh, en premier lieu. C'est assez paradoxal dans le sens que aujourd'hui, les cellules dormantes qui se réactivent et qui se sont réactivées au cours des derniers mois dans le désert syrien, c'est justement autour de la base d'Al-Tanf. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que c'est tout simplement une question de logique et d'analyse pure et simple. Comment se fait-il qu'une base qui se trouve de façon illégale sur un territoire mais qui est soi-disant appelée à lutter contre les derniers éléments de Daesh présents en terre syrienne, les fameuses cellules dormantes, et quand par hasard ces cellules se réactivent et commencent à mener des attaques, il y a eu effectivement des attaques qui ont été menées au cours des derniers mois contre des convois aussi bien militaires que civils qui passaient par cette zone, et les Américains n'avaient rien fait. Donc, ce redéveloppement, cette activation des cellules dormantes de Daesh, de ces derniers éléments de Daesh, sachant que l'écrasante majorité a fort heureusement été écrasée, grâce aux efforts conjoints de la Syrie, de la Russie, de l'Iran, du Hezbollah libanais, mais il y a encore ces cellules dormantes qui vivent, si on devait faire une comparaison, comme des sortes de bactéries nocives qui continuent d'exister, qu'on maintient dans un état nécessaire pour après les relancer dans l'air. Et c'est ce qui est en train de se passer justement avec cette base, ne serait-ce que d'Al-Tanf. Donc, effectivement, les Américains, aujourd'hui, sachant qu'ils n'ont pas réussi leur scénario initialement voulu vis-à-vis de Damas, vis-à-vis de l'État syrien, du peuple syrien, aujourd'hui, ils ne comptent toujours pas lâcher, surtout qu'aujourd'hui, leur position, on le voit, dans le cadre des multipolaires du monde, elles sont en train de perdre, les Américains sont en train de perdre leur position, non seulement en Syrie ou dans cette région, mais au niveau global. On le voit parfaitement. Ils ne réussissent plus à réaliser les schémas comme ils avaient la facilité de le faire il y a de cela pas si longtemps que cela encore. Donc, aujourd'hui, dans cette hystérie, dans cette haine vis-à-vis des pays partisans de la multipolarité qui ne lâchent pas, qui ne reculent pas face à eux et qui résistent et qui passent à la contre-offensive, donc effectivement, ils réactivent toutes sortes d'éléments, y compris ouvertement terroristes, les pires terroristes qui puissent exister, pour pouvoir encore maintenir une certaine influence et surtout une certaine capacité de nuisance. Plus tellement d'influence, mais bel et bien une capacité de nuisance. Je pense que c'est exactement cela qui traduit leurs faits et gestes en territoire de la République arabe syrienne.
Madame Midani, s'agissant toujours en fait de ce bombardement russe des terroristes, de l'information a été donnée, je viens de le dire tout à l'heure, par le ministère russe de la Défense. 200 terroristes soutenus par les États-Unis ont été tués lors de ce bombardement aérien russe, selon d'ailleurs un communiqué officiel du ministère russe de la Défense. Madame Midani, jusqu'à présent, depuis en fait de l'intervention militaire américaine en territoire syrien à la demande du gouvernement de Damas, la Russie a montré en fait sa détermination, a montré qu'il n'en est absolument pas question pour Moscou de badiner avec, si vous voulez, les terroristes soutenus par les États-Unis et certains autres pays. Ce bombardement, Madame Midani, montre-t-il, d'après vous, le fait que la Russie est déterminée à ne pas permettre aux États-Unis de mener à bien leur politique, si vous voulez, de destruction, leur politique d'instabilité politique et économique en Syrie, d'autant plus que le ministère russe de la Défense a précisé dans son communiqué que les terroristes se préparent à perturber les prochaines élections présidentielles en Russie, Madame Midani. En Syrie, Madame Midani.
Tout à fait. Même le président Poutine lui-même, il a dit que de toute façon, les Russes ne veulent pas brûler les ponts avec quiconque, mais si besoin est, les réponses vont être très très fermes et qu'ils ne laisseront pas perturber les élections présidentielles en Syrie. Donc pas si facilement. Donc, il faut savoir aussi que ce qui a été bombardé, c'est un quartier général, en fait, de ces terroristes, cellules dormantes, qui étaient en train aussi de fomenter des attentats dans différents endroits de la Syrie pour justement tout perturber les élections présidentielles en Syrie qui ont été fixées le 26 mai et qui en fait sont là pour montrer que l'État syrien a toutes ses institutions et avec son gouvernement respecte aussi les différents articles de la constitution syrienne. Il les applique et met en application de manière très très respectueuse et scrupuleuse les différents articles de cette constitution pour le renouvellement des institutions. Cette fois-ci, c'est donc l'institution présidentielle, le président de la République. Donc, le vote a été fixé pour le 26 mai. À l'étranger, ça sera le 20 mai. Il y a d'ores et déjà des candidats. Donc, il y a deux candidats. Le président Bachar Assad représente sa candidature à l'instant, il y a quelques minutes. Et deux autres candidats qui se sont présentés aussi. Les candidatures seront reçues jusqu'au 29 mai. Donc, jusqu'au 29 avril, du 19 au 29 avril. Donc, en fait, c'est effectivement une volonté réelle de la part de la Syrie, déjà, donc, de mener à bien ces élections et aussi une volonté réelle, je dirais, de nos amis russes et puis de tous nos amis autour, donc, le Hezbollah et les forces qui affluent en fait l'armée, bien sûr l'armée syrienne. C'est l'objectif, c'est faire respecter l'ordre et puis c'est que ces élections se passent de manière très correcte et dans le calme et la sérénité.
Voilà. Monsieur Egorov, comment voit-il d'après vous le régime israélien, ce qui se passe actuellement en Syrie? Madame Midani vient de le dire, la Syrie se prépare en fait pour les futures élections présidentielles. Bachar al-Assad, l'actuel président syrien, aussi a en fait déposé sa candidature, comme vient de le dire tout à l'heure Madame Midani, pour en fait cette élection présidentielle. Il y a quelques années, on disait que voilà, dans quelques semaines, c'est fini, si vous voulez, le pouvoir syrien, le pouvoir de Bachar al-Assad, mais il se prépare en fait à se représenter cette fois-ci avec beaucoup plus de fermeté, de force et de détermination pour cette future élection présidentielle, Monsieur Egorov.
Oui, bon, en ce qui concerne ces élections à venir, qui sont très importantes pour la Syrie, pour le peuple syrien, moi je pense qu'elles se dérouleront de la meilleure des façons et je pense que toutes les mesures nécessaires sont prises et en train d'être prises pour que cela soit le cas. Je pense aussi que le président Bachar al-Assad est largement favori pour remporter ce scrutin. Et d'ailleurs, pour confirmer ces dires, c'est que justement, quand on voit les mesures que certains États, notamment occidentaux, prennent pour empêcher, pour entraver le vote des Syriens se trouvant à l'étranger, comme cela était déjà le cas dans le passé, cela confirme qu'ils ont peur. Parce que s'ils étaient sûrs et certains que les Syriens qui vivent à l'étranger sont anti-Assad, comme cela a été tellement dit tellement de fois sur les principaux médias mainstream occidentaux, pourquoi avoir peur? Ils vont exprimer leur point de vue, leur avis, faire valoir leur liberté. Et pourtant, ils savent parfaitement que beaucoup de Syriens, y compris de ceux qui se trouvent à l'étranger, donc au-delà de la patrie, soutiennent le président Bachar al-Assad. Donc voilà toute cette campagne. Maintenant, concernant Israël, écoutez, Israël a, dès les premières heures, et continue de l'être, l'un des principaux déstabilisateurs de la République arabe syrienne. Et on voit parfaitement aujourd'hui dans quelle hystérie se trouve l'État sioniste, justement face au développement aussi bien en Syrie que de façon générale dans la région. Parce qu'on voit bien que toute cette campagne, parce qu'on parle de la Syrie, mais on peut aussi parler de l'Iran, qui est, comme la Russie, l'un des principaux, avec la Russie, le principal allié de Damas. Et on voit bien parfaitement qu'aujourd'hui, ce renforcement sans précédent de l'Iran sur la scène régionale et internationale, dans quel état il met justement les responsables israéliens, qui s'activent, qui font toutes sortes de lobbying auprès de leurs alliés washingtoniens, et de façon générale, ils essaient, aujourd'hui on voit parfaitement ce qui est en train de se passer entre Israël et certains régimes arabes, n'est-ce pas, et notamment du Golfe. Donc on voit parfaitement toutes ces actions qui sont entreprises par l'État sioniste, ça confirme la peur dans laquelle ils se trouvent, parce que, de un, le scénario initialement préparé pour la Syrie n'a pas pu être réalisé. De deux, malgré toutes les attaques que Israël continue de mener sporadiquement, cela n'apporte pas le résultat voulu, d'autant plus que Israël, on le sait aujourd'hui, a quand même beaucoup évolué ses attaques, ses agressions. Il ne se permet plus de rentrer dans l'espace aérien syrien. Quand il agresse, il utilise l'espace aérien libanais. Et encore, même via le Liban, il fait attention parce que la riposte devient à chaque fois de plus en plus efficace. Les missiles n'arrivent pas. La plupart des missiles sont interceptés. Il y a des avions qui ont été abattus, qui ont été touchés. Bon, donc, en tout cas, ça ne marche pas. Et troisièmement, effectivement, c'est ce renforcement de l'Iran, de la Russie et de toutes les forces pro-multipolaires sur l'arène régionale internationale qui accélère la chute, en bonne et due forme, des partisans de l'unipolarité. Parce qu'ils sont des nostalgiques et des révisionnistes aujourd'hui, il faut les appeler par leur nom. Et aujourd'hui, dans cette défaite qu'ils sont en train de subir, il est tout à fait évident que leur hystérie va continuer d'augmenter, elle va monter en degré, elle va monter en intensité. Il faut être prêt à ça, il faut être prêt à toutes sortes d'attaques et de nouvelles agressions et de provocations. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'axe de la résistance, l'axe des partisans de la multipolarité est plus que jamais puissant et saura donner les réponses nécessaires à tout défi.
Madame Midani, est-ce que vous aussi vous estimez, tout comme M. Gorov, que voilà, c'est une victoire pour l'axe de la résistance, dont le maillon fort c'est l'Iran, et également une défaite pour tous ceux qui voulaient déstabiliser en fait toute la région du Moyen-Orient?
Absolument, je suis entièrement d'accord avec cette analyse. Et je voudrais d'ailleurs saluer M. Egorov en passant aussi. Je ne lui ai pas rendu le salut. Et puis, d'un autre côté, il est certain que c'est en fait ces pays qui sont dirigés par les États-Unis, la totalité de l'OTAN, les pays de l'OTAN, les pays du Golfe, en fait, qui commencent de toute façon à essayer d'y voir clair et peut-être peu à peu. Comme l'Union européenne commence à tisser des liens avec les pays de l'axe de la multipolarité, comme l'a appelé M. Igorov. Donc, effectivement, on voit que, par exemple, l'accord sur le nucléaire, l'Union européenne essaye de jouer un rôle constructif, d'arrondir les angles. Eh bien que les Américains n'assistent pas. Et puis, je voudrais saluer l'Iran, d'ailleurs, d'avoir été courageux en disant, de toute façon, nous ne discuterons, et pour enlever le drapeau américain de la salle.
Merci.
Même s'ils assistent en direct, ils sont pas là. Et
merci.
Puis, d'un autre côté, il est important.
Merci beaucoup,
merci
Madame
beaucoup.
Midani. Nous arrivons, malheureusement, en fait, parce que vous avez toujours, en fait, des analyses pertinentes, en fait, à faire, à avancer, mais nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup également de faire cette précision, comme quoi, en fait, c'est une défaite pour le régime israélien, les États-Unis, également certains régimes arabes de la région du Golfe Persique. Merci beaucoup, Madame Midani, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à M. Mikhail Egorov, analyste politique, qui a été avec moi pour cette émission depuis à Rabat. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.